السلام عليكم.
Le Djebel Saro, l'un des massifs les plus reculés du sud marocain, le cœur du pays berbère. Depuis l'aube, ils sont des centaines à s'être mis en route. Ils ont parcouru parfois plus de 100 km sur des pistes rocailleuses. Tous sont descendants d'une des tribus les plus renommées de la région, les Aïtata. Une fois par an, c'est ici qu'ils se retrouvent pour un moussem, la fête traditionnelle du sud marocain. Saïd El Ouarzazi, lui, est arrivé la veille de Marrakech.
J'ai grandi en ville, je suis d'origine berbère, mais c'est la première fois que je viens ici.
Saïd a 22 ans, il vient tout juste de terminer ses études. Sa famille est originaire de ces montagnes et pour lui, ce moussem est un véritable retour aux sources. Comme tous ceux qui arrivent, Saïd doit d'abord aller faire une offrande au saint local qui repose dans ce vieux mausolée.
Salam alaikum.
Bonjour. Ça va ?
Bien, merci.
Je voudrais savoir qui est ce saint et comment il s'appelle.
Son nom, c'est Sidi Saïd et sa tombe est ici.
Et il est enterré là depuis longtemps ?
Il est ici depuis toujours. Nos parents, nos grands-parents et même nos aïeux le vénéraient déjà.
Et comment on fait pour lui rendre hommage ?
Attends, viens, je vais te montrer. Il faut passer là, sous la racine de l'arbre, pour faire une offrande.
Je passe par où exactement ?
Par là.
Enlève tes babouches, sinon c'est péché.
Dis donc, c'est pas facile à faire, hein ?
Non, et si tu veux que ton offrande soit valable, il faut le faire 3 fois.
Mais c'est trop petit.
Mais non, vas-y.
Et les gros, comment ils font alors ?
Les gros, ils payent plus cher.
Et l'offrande, je la mets où ? Par là ?
Tu peux la déposer là.
Mais pourquoi les enfants l'ont prise ?
Celui qui se trouve là a le droit de la prendre.
Ah bon, c'est comme ça ? Bon, merci beaucoup et que Dieu vous vienne en aide.
La deuxième visite de Saïd est pour le vieil Ali, l'un des organisateurs du moussem. Comme tous les Aïtata, Ali est fier de ses origines et de sa tribu. Et comme toujours en pays berbère, l'hospitalité et les histoires commencent avec un thé à la menthe.
Toi, t'es un Aïtata. Et les Aïtata, ce n'est pas qu'une tribu. C'est un ensemble de tribus. Il y en a au moins 25. Je ne sais même pas qui pourrait te dire ça au juste. Moi, je ne suis qu'un gamin de 57 ans. Je ne peux pas te raconter une histoire qui dure depuis des milliers d'années. Mais ce que je peux te dire, c'est que les Aïtata sont connus pour être des guerriers. Voilà ce qu'on sait faire chez nous. L'épée et le fusil. C'est ce qu'on a. Et il y a aussi l'intégrité. Chez nous, si tu sors du droit chemin, tu payes, c'est sûr.
Depuis la veille, les bonimenteurs, les musiciens et les marchands ont investi le village. C'est le dernier moussem, la dernière fête traditionnelle avant l'hiver. Pour tous ici, c'est la dernière occasion de se procurer tout ce qui vient de la ville. Bientôt, avec les pluies, la neige et la crue des rivières, ces paysans et ces nomades vont devoir vivre plusieurs mois isolés dans les montagnes, coupés du monde. Il est minuit, la lune est pleine, c'est la dernière étape de la journée et la plus attendue. Le haïdous, la danse traditionnelle berbère. La chorégraphie est extrêmement codifiée. Les hommes et les femmes dansent face à face en ligne et chantent tour à tour. Tout sourire, tout mouvement un peu appuyé est interdit. L'austérité est de rigueur, pourtant dans cette région où l'islam permet peu d'écart, le Haïdou s'est perçu comme un grand moment de liberté. Pour les hommes, c'est l'occasion de pouvoir regarder les filles et de faire peut-être la rencontre de celle qui deviendra leur épouse. Pour les femmes, c'est l'occasion presque unique de se faire remarquer.
Les femmes ne sortent jamais dans leur maison. Et là, c'est l'occasion de sortir et que les hommes puissent voir les femmes et les femmes aussi puissent voir les hommes.
Les femmes qui sont descendues sur la scène, ça veut dire qu'elles n'ont pas du mari. Alors, ils sont prêts de recevoir un mari. Une femme qui a un mari, elle ne peut pas monter sur la scène. Parce que c'est notre culture un petit peu.
Et vous, est-ce que vous êtes venu pour chercher une femme aussi?
Oui. Eliona.
Ce soir, elles sont des dizaines à danser. Leurs familles ont tout fait pour qu'elles soient les plus belles. Nous n'aurons pas le droit d'approcher et de discuter avec les plus jeunes. C'est Fatima, une veuve, qui a été désignée pour nous parler.
Chez nous, les femmes doivent porter le foulard sur la tête, le drapé et la tunique.
C'est la tradition ?
Oui, c'est comme ça chez les Berbères. Si une fille et un garçon se plaisent, le garçon doit avant tout aller faire sa demande auprès des parents de la fille. Et avant, il peut aussi se renseigner auprès des gens qui connaissent la famille.
Moi, j'ai rencontré ma femme dans un haïdous. Je l'ai vue et elle m'a tout de suite plu. Je suis allé demander sa main à ses parents et ensuite on s'est mariés.
La danse durera toute la nuit et la nuit suivante aussi. Comme chaque année, des garçons et des filles se rencontreront. Un moussem, c'est aussi ça. Faire en sorte que les descendants de la tribu se marient et perpétuent la longue lignée des Haïtata. Le lendemain, Saïd quitte les montagnes du Djebel Sahro pour rejoindre la vallée et le berceau de sa famille, le village de Nkob. C'est dans cette casbah qu'est né son père, Brahim El-Warzazi. Homme d'affaires et notable, Brahim est un Haïtata, fier de ses origines.
Vous voyez, cette casbah-là, c'est de mon arrière-grand-père. Et maintenant, il appartient à mon oncle. C'est la même chose, c'est de la famille, de ce côté-là et de l'autre côté. Et ainsi de suite. L'autre village est le plus peuplé en casbah. Il y a 45 casbahs. Les premières, ils ont déjà un siècle. Et les autres, ils ont plus de 60 ans. Et dans le temps, il y avait des rivalités entre des tribus. Et chaque tribu doit être forte au point de vue casbah pour se défendre. Et en même temps, on doit stocker des approvisionnements suffisants pour 2 ans minimum. Et c'est dans cet esprit-là que on leur a donné une architecture de fortification.
Mais aujourd'hui, les fortifications de Nkob ont plus à craindre des outrages du temps que des tribus adverses. Alors pour sauver le patrimoine de son village, Brahim a fait appel au savoir de Salima Nagy, une architecte elle aussi préoccupée par la fragilité de ses trésors de paille et de terre.
Voilà un exemple des maisons abandonnées. Une fois la casbah est abandonnée, elle est en train de se dégrader par.
Oui, elle va mourir.
D'après les statistiques, les dernières statistiques que. À peu près dans les 30% de la population a quitté le village.
C'est énorme.
C'est la nouvelle couche qui est en train de se mettre en place actuellement.
Voilà.
Bonjour. Dis donc, la prochaine fois, il faudra arroser le mur avant de mettre ton enduit. Parce que si tu ne mets pas d'eau, ton enduit ne tiendra pas longtemps. T'as compris ?
Vas-y, j'y retourne déjà.
Inch'Allah.
Ça vous fait plaisir de voir les méthodes traditionnelles en action, là ?
Bien sûr, surtout qu'il ne s'agit pas de quelque chose de touristique, mais de gens qui n'ont pas refusé d'habiter dans la terre et qui encore continuent à faire les enduits parce que l'hiver arrive.
On doit veiller à ce que la restauration soit entamée dans les meilleurs délais pour sauver notre patrimoine architectural. Surtout dans des règles de l'art.
Toutes les constructions du sud marocain sont faites à partir de terre crue, mises dans des coffrages qui forment des murs de pisé. Le maître piseur dame, c'est-à-dire qu'il frappe la terre.
Et à chaque coup de pilon, le piseur crie Allah pour honorer Dieu, car ici construire est un acte sacré.
À la fin, on a des murs extrêmement solides qui vont pouvoir durer, franchir des années. Donc cette solidité fait que de toute façon, même avec des coups de bélier, et même avec, il est extrêmement difficile de pénétrer à l'intérieur.
Alors vous êtes les bienvenus dans la Kasbah Bahabaha. Bismillah, tadli.
Pour donner l'exemple et encourager les habitants de Nkob à restaurer leur maison, Brahim El Warzazi a entièrement reconstruit sa propre Kasbah il y a 6 ans.
C'est une Kasbah qui a été construite en 1945 par mon grand-père, Haj Bassou Mimoun. Et c'est là où j'ai passé mon enfance. Après, la famille a abandonné la Kasbah pendant à peu près 30 ans, ce qui l'a exposé à beaucoup de dégradation.
Il aura fallu 5 ans pour restaurer le bâtiment, car Brahim n'a employé que des méthodes traditionnelles. Dans ses murs, pas un gramme de béton, uniquement de la terre et de la paille. Pour sauver la Kasbah familiale, Brahim y a ouvert des chambres d'hôtes pour accueillir les voyageurs. Il a tout fait fabriquer dans la région pour que l'artisanat local continue à vivre.
Vous voyez, le lit, il est complètement fait en côte. C'est du feuille de palmier tessine. Et les tapis dans les chambres qui sont confectionnés dans nos ateliers de tissage. On travaille avec tous les matériaux de la région et de savoir-faire de la région. Vous voyez, pour un lavement aussi, c'est de la poterie, c'est... Vous voyez ? Voilà. Et c'est d'assurer le minimum de confort pour les gens qui veulent vraiment vivre l'authenticité des lieux.
Même dans la cuisine, aucune concession n'a été faite à la modernité. Ici, rien n'a changé ou presque. Et les visiteurs sont les bienvenus, comme dans tout le reste de la maison.
Ça fait plaisir de faire venir nous inviter, nos hôtes, à voir la préparation du couscous. Les plateaux dans lesquels on sert le couscous et d'autres choses, vous les voyez ici accrochés, ce sont des plateaux en bois. Il y a même des plateaux qui sont plus âgés que moi, comme celui-là. Et il est très âgé et je me souviens très bien, j'ai mangé pas mal de fois du couscous dans ce plateau en présence de mon grand-père et de ma grand-mère. Donc.
Ce qui est admirable et hors du commun dans cette démarche, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'une belle demeure, mais vraiment d'une démarche de l'intérieur, un grand respect de ce qui vient des anciens et du patrimoine au sens noble, ce qui vient des pères, ouais. Et qui en même temps se tourne vers l'avenir. Mmh. Qu'est-ce que j'offre à mes enfants, au sens large, mmh. aux gens du village, pour qu'il y ait un développement, et un développement intelligent.
Un développement qui a déjà permis aux habitants de Nkob de maintenir vivantes leurs traditions. Des traditions qui attirent de plus en plus les voyageurs, désireux de sortir des sentiers battus et de découvrir les véritables trésors du pays berbère. Ces trésors fragiles du sud marocain, Salima les a presque tous recensés. Depuis 10 ans, elle sillonne la région avec une seule idée, préserver l'identité et la culture berbère. Ce matin, elle nous emmène aux confins du Haut Atlas, sur le territoire d'une autre grande tribu, les Aït Aouzghit. Elle tient à nous montrer l'un des joyaux de l'architecture en pisé. Un bâtiment encore jalousement entretenu par les villageois, un grenier collectif aux allures de fortin.
C'est un grenier qui se trouve sur la partie la plus élevée du village, sur une partie où on peut voir toute la région et être sûr qu'aucun attaquant n'arrive. Mais c'est en même temps un site qui domine les aires à battre. C'est là que sont apportées à chaque récolte depuis la vallée l'orge et qu'on va vanner l'orge et qu'on montera ensuite dans le grenier les sacs. On met aussi tous les titres de propriété, les bijoux, et le berbère a coutume de dire « c'est ma banque ».
Grâce à Salima, les habitants acceptent de nous ouvrir les portes de leur coffre-fort. Normalement, seuls les hommes du village sont autorisés à rentrer. Ali Haït Abdallah est l'un des plus gros fermiers de Tajdirt. Aujourd'hui, il vient déposer sa récolte. Ici, chaque famille possède sa case individuelle. Il y en a 76 en tout. Un gardien désigné par la communauté veille sur les biens des villageois.
Ça, c'est la clé de la case.
D'antiques serrures artisanales ferment les portes de chaque grenier individuel. Et même si le temps des pillages est fini, les villageois continuent à venir ici déposer leurs biens les plus précieux. Ce matin, le trésor d'Ali, c'est sa récolte d'orge. Mais avant de la mettre à l'abri, il doit la mesurer précisément, car dans ces montagnes arides, la terre donne peu et chaque seau de grain compte.
Avant d'entreposer dans le grenier, Si Ali Omar va procéder au partage.
Si Ali procède si minutieusement à la mesure de sa récolte, c'est parce que tout son grain n'est pas destiné à sa réserve personnelle.
Et de 10. Ça, c'est pour l'achour.
La dixième mesure est mise de côté pour procéder à ce qu'on appelle le achour, c'est-à-dire l'un des devoirs de tout musulman, de donner sur l'orge entreposé, de donner une part de ce qu'il a récolté.
L'achour sera redistribué selon les souhaits du propriétaire. En général, l'offrande est faite aux pauvres, mais aussi aux saints locaux, à l'imam ou aux écoles coraniques.
Si on fait des dons de cette sorte, c'est parce que ça existe depuis toujours et qu'on continue à faire de même. On le fait pour Allah, pour qu'il nous donne de la pluie et que les récoltes soient fertiles.
Et les pauvres aussi, ils ont leur part.
Oui, c'est ce qu'on appelle l'achour. C'est ce qu'on a mis là-bas pour ceux qui n'ont rien.
Ouais, c'est pour ceux qui n'ont rien.
Mais le grenier collectif sert aussi de place du village. C'est ici qu'après le travail des champs, Ali et les autres hommes de la tribu se retrouvent. C'est ici aussi que se prennent les grandes décisions, que se discutent et que se décident les gestes de solidarité.
On ne retrouve cela que dans ce territoire berbérophone et que dans ces montagnes où il fallait de toute façon et protéger les biens et faire en sorte d'aider sa communauté. Parce qu'on est quand même dans un territoire de la soif, de la faim et de la dissidence.
Nous quittons les terres arides du Haut Atlas pour rejoindre la vallée fertile du Dra, à la découverte d'un hameau fortifié, un Ksar, comme il en existe des centaines dans le sud marocain. Le Ksar de Tamnoukel. Autrefois, les Ksar étaient les fiefs de Kaïd, des seigneurs locaux. Celui-ci appartenait à la famille des Mesguita.
C'est vraiment magnifique.
Salima retrouve Mohamed, un ami et un habitant du Ksar.
C'est vraiment splendide, ces structures.
Ici, nous sommes dans le Ksar de Tamnougelt, le Ksar le plus beau du Dra, de la vallée du Dra. Et au fond, ce Ksar, comme on le voit, était un Ksar dessiné pour accueillir des chevaux, pour la fête, pour la noblesse. Il s'agit du Ksar des Mesguita, cette famille qui avait quand même une très grande puissance locale.
Depuis, les Caïds ont perdu leur pouvoir et leur fortune. Mais l'héritier des Mesguita vit toujours dans le Ksar avec sa famille. Il habite derrière cette porte, vieille de plus de 500 ans. C'est ici que vivait son grand-père Ali, le dernier caïd de Tamnougel.
Salam alaikum.
Salam.
Mohamed.
Salam
alaikum.
Saïd nous entraîne dans un dédale de couloirs et de cours, à la découverte du palais de sa famille. En tout, 6 maisons, construites au cours des 4 siècles qu'a duré le règne des Mesguita.
Il faut imaginer le faste qu'il pouvait y avoir dans cette maison, qui était une maison princière, le nombre d'esclaves qu'il pouvait y avoir un peu partout, et puis évidemment le bruit et les constantes allées et venues entre le caïd et ses sujets.
Ici, c'est la demeure du caïd Mohamed. Quand un caïd mourait, un autre le remplaçait et il fallait qu'il s'installe avec toute sa cour. Donc il faisait construire une nouvelle demeure.
On a ici un des plus beaux patios du sud. L'artisan a su, là encore, mêler un vocabulaire architectural appartenant à l'art arabo-andalou et en même temps des choses tout à fait d'ici. On le voit notamment dans le détail de ces plafonds peints. Vous devinez par toutes les volutes qui sont les arabesques qui sont utilisées, les couleurs aussi, les rosaces, tout le travail de composition extrêmement fleuri et en même temps très africain. Ça rappelle même des choses d'Éthiopie par moment. Il y a une identité propre à un artisan et à un territoire.
Malheureusement, les héritiers du caïd n'ont plus aujourd'hui les moyens de préserver comme il le faudrait leur patrimoine. Le vieux Saïd a dû faire des choix. Avec son salaire de fonctionnaire à la mairie de Tamnougelt, il s'est concentré sur l'entretien d'une seule des 6 maisons du palais. C'est ici qu'il s'est installé avec la trentaine de membres de sa famille. Nous avons dû insister pour qu'il nous ouvre les portes de sa demeure, car Saïd El-Kaïd affiche une certaine pudeur face à la pauvreté dans laquelle sont tombés les héritiers des Mesguita.
Ici, c'est une chambre. Si je n'habitais plus ici, tout ça pourrait disparaître. Moi, tous les matins, je fais le tour de la maison et je regarde si quelque chose ne va pas. Parce qu'avec ce genre de construction, si tu tardes à réparer, ça peut se dégrader très vite. Et ensuite, ça coûtera encore plus cher à restaurer.
Pas question donc pour Saïd d'abandonner la demeure de ses ancêtres. Il ne sait que trop bien le sort qu'elle subirait. Pour nous aider à le comprendre, il nous emmène voir l'ancien quartier juif.
Voilà, ça c'est le Mela, le quartier juif.
Ou plutôt ce qu'il en reste, depuis que toute la communauté est partie pour Israël il y a 40 ans. Mais il n'y a pas que le quartier juif qui tombe en ruine. À Tamnougelt, des dizaines de casbahs s'écroulent, abandonnées par des propriétaires, attirés par le confort et la modernité. Certains ont rejoint les grandes villes ou sont partis à l'étranger. D'autres se sont installés tout près, juste derrière les remparts, dans un village de maisons en béton. Seule une dizaine de familles continuent à vivre dans le Ksar.
Voilà. Regardez les plafonds, comment ils sont s'écroulés, s'effondrés.
Ces espaces correspondaient à des vies avec des familles élargies.
Voilà.
Et donc ce lieu correspondait tout à fait à ce à quoi, enfin aux attentes des gens qui l'habitaient. Aujourd'hui, c'est l'inverse.
Les gens, maintenant, ils cherchent l'indépendance, ils cherchent de vivre seulement avec leur famille, pas avec leurs frères et leurs parents, avant, comme avant. Voilà.
Avec les casbahs, c'est aussi toute une série de métiers artisanaux qui disparaissent. Déjà, les maîtres piseurs se font rares, vaincus par le béton. Salima nous emmène voir l'un des derniers artisans à maîtriser le boumrik, l'art de la porte berbère. Il s'appelle Mbark Aït Mbark. Ces portes sculptées sont réputées dans toute la région. Elle décore les villas de nombreuses personnalités de Marrakech et sont de plus en plus recherchées à l'étranger.
Je ne sais pas écrire, je n'ai pas fait d'études, mais ce que j'ai vu avec mes yeux, je saurais le réaliser avec mes mains. Et ma mémoire ne me joue jamais de tour. Prends le rabot et efface-moi ça.
Tout l'art du boumrik repose sur la précision et la symétrie. Bark n'hésite jamais à recommencer si le travail n'est pas parfait.
Il y a quelque chose qui ne va pas ?
Ben, ça ne me plaît pas. C'est tout. Bon, alors, c'est où le milieu maintenant ?
Autour de cet ouvrage, trois générations sont au travail. Pourtant, le carnet de commandes est loin d'être rempli. Et les deux fils de Mbark survivent grâce à des travaux beaucoup plus ordinaires.
Vous faites souvent ce genre de travail ?
Oh, ça arrive de temps en temps seulement. De temps en temps.
Une ou deux fois par an, pas plus. Les gens n'apprécient plus ce genre d'artisanat. Quand tu leur parles de boumrik, ils savent même plus ce que ça veut dire. Maintenant, ce qu'ils veulent, c'est des placards, des tables, des armoires, tout ça.
Aujourd'hui, les gens veulent du moderne. Personne ici n'achèterait ça pour le mettre chez lui, à part certains touristes qui les ramènent chez eux.
Ce travail requiert du temps, de la rigueur et finalement un très long apprentissage. Mais c'est des choses qui se font de moins en moins. On ne veut pas payer les gens à leur juste valeur et on méprise le travail manuel. Donc, c'est des formes, c'est des savoir-faire qui ne peuvent être pérennisés.
Il faudra 3 jours à toute la famille pour terminer cette porte. Probablement l'une des dernières pour le vieux maître. À 86 ans, il a transmis tous ses secrets et sait que son savoir-faire est entre de bonnes mains, celle de ses propres fils, à condition qu'ils acceptent de prendre le relais.
Si l'un d'eux ne veut plus faire ce travail, c'est plus mon fils. Celui qui refuse de faire le métier de son père ne mérite plus d'être son fils.
Comme la famille Mbark, de plus en plus d'habitants du sud marocain ont pris conscience de la richesse de leur patrimoine et de leur tradition. Un patrimoine fragile, à l'image de ces casbahs de terre qui chaque jour, avec la régularité d'un sablier, grain par grain, s'effritent un peu plus. Si quelques-unes n'ont retrouvé une partie de leur splendeur grâce au travail des restaurateurs, pour beaucoup d'autres, malheureusement, il est déjà trop tard.